Les podcasts du Collège de France.
Bonjour, bienvenue à cette dernière leçon du cours sur les signaux et les circuits quantiques. Je vous remercie de votre participation au cours. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle que les exposés de ce cours sont disponibles sur le web. Et surtout, n'hésitez pas à interrompre cette leçon. Évidemment, si après la leçon, vous avez des remarques, n'hésitez pas aussi à m'écrire à cette adresse. Alors, normalement, aujourd'hui, vous devriez avoir trouvé à l'entrée les deux polycopiés de cette leçon et de la leçon précédente. Voilà. Alors, tout à l'heure, nous aurons le plaisir de recevoir Jérôme Le Sueur, ici, qui va nous parler de dispositifs supraconducteurs à base de jonction Josephson réalisés avec des supraconducteurs à OTC, ce qui, à mon avis, est un complément intéressant de ce cours, puisque au fur et à mesure que la fréquence des circuits pourra augmenter, bien sûr, Le fait de disposer d'un supraconducteur à très fort gap est très intéressant. Donc, cette dernière leçon, en fait, est l'aboutissement des cinq précédentes. Et dans cette dernière leçon, ce que je vais couvrir, c'est une fonction de traitement du signal, une fonction élémentaire qui est l'amplification. Et nous allons voir comment cette fonction peut être réalisée de façon maximalement efficace et traiter les signaux quantiques avec un minimum de bruit, ou du moins comment finalement procéder pour effectuer cette fonction en ajoutant le minimum de bruit que la mécanique quantique impose au traitement du signal. Donc, cette leçon va rassembler les différentes notions que l'on a examinées dans les leçons précédentes. Alors, je vais commencer par rappeler les idées qu'on a introduites dans la dernière leçon. Je vous parlerai de cette notion qu'on a abordée la dernière fois, qui est le caractère symplectique des circuits actifs. Donc, les circuits actifs ne sont pas unitaires, mais sont symplectiques. Je vous rappellerai comment on définit les caractéristiques d'un amplificateur, et puis nous verrons aussi quel est l'état de l'art dans l'amplification des signaux ultra bas bruit. Et puis, nous allons examiner en détail donc, la matrice de diffusion des circuits minimaux, c'est des circuits qui réalisent cette fonction amplificatrice avec le minimum de mode et qui donc vont être maximalement efficaces. Et puis, je terminerai en vous donnant un exemple de circuits que l'on a réalisés à Yale et qui, on le pense, constituent une implémentation de ce circuit actif à deux ports dont je vais vous parler par la suite. Voilà, c'est le plan pour aujourd'hui. Et donc, je vous rappelle ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, je prends le cas d'un circuit vraiment minimum, vraiment le plus simple possible, un circuit LC couplé à une ligne de transmission. Donc les signaux arrivent par la ligne, se réfléchissent dans le circuit et repartent. Et la contrepartie active de ce circuit élémentaire est finalement un circuit LC dans lequel la self varie au cours du temps. Et là, on prend une variation sinusoïdale. Et je note oméga 0 ici, la fréquence de résonance du circuit oscillant. Le paramètre gamma, c'est le paramètre d'amortissement. Si vous voulez, il définit le couplage le couplage entre cette ligne de transmission et le circuit. Un très fort gamma correspond à un fort couplage, un petit gamma correspond à un faible couplage. Donc le circuit actif ici est pompé à la fréquence 2 fois 2 oméga 0, 2 fois la fréquence de résonance. Donc on avait calculé la dernière fois, on avait vu la matrice de diffusion dans le cas passif, et là je l'ai réécrite sous cette forme où on traite en parallèle les signaux à fréquence positive et les signaux à fréquence négative. Vous avez vu, on a vu que pour le cas classique, évidemment, la partie négative des signaux est complètement redondante, c'est simplement le complexe, il s'obtient en prenant le complexe conjugué de l'amplitude des signaux à fréquence positive, mais dans le cas quantique, évidemment, il y a une différence, il y a cette asymétrie entre les fréquences positives et les fréquences négatives. Donc là, je traite les deux en parallèle pour être compatible avec ce qui va suivre. Alors, donc, si on regarde le circuit actif, là, on voit tout de suite une différence, c'est qu'il y a un élément de couplage entre la partie négative, la composante à fréquence négative et la composante à fréquence positive. Et là, je voudrais faire une remarque très importante, c'est que j'ai écrit des petits a ici, mais à ce stade de l'analyse, le traitement est complètement classique au sens de la seconde quantification. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est qu'on a des ondes ici, mais pour l'instant, ces ondes sont classiques. J'ai pas, et même pour ces ondes classiques, on peut définir cette matrice de diffusion. Alors, le caractère amplificateur du circuit se manifeste ici par le fait que le coefficient de réflexion, les coefficients de la matrice de diffusion qui sont sur les diagonales, ici, dans ce cas actif, sont supérieurs à 1. Donc le signal arrive et repart amplifié. Il va y avoir une différence très importante. Donc les circuits passifs qui sont basés sur des circuits ici qui sont des selfs et des capacités pures vont avoir une matrice de diffusion qui est unitaire. J'ai écrit l'unitarité ici en insérant la matrice unité, vous allez voir pourquoi. Et je vous rappelle, l'unitarité, c'est en fait la combinaison de deux propriétés, l'orthogonalité, qui est la conservation de l'énergie, la somme de l'énergie dans toutes les quadratures, et la symplecticité, le caractère symplectique, qui est la conservation, finalement, de l'information. On va voir cette notion un peu plus précisément par la suite. Et cette conservation de l'information, a priori, est indépendante de la conservation de l'énergie. Alors, pour ce cas actif, ici, la matrice de diffusion, cette matrice ici, est telle qu'elle n'est pas unitaire, elle est symplectique, et la symplecticité s'écrit de cette façon. Au lieu d'avoir la matrice unité ici, on a la matrice J, que j'ai indiquée la dernière fois, que je redonnerai encore par la suite. Et ici, il y a une différence aussi, on prend la transposée de la matrice S. Et ceci traduit la conservation de l'information, et il manque évidemment pour ce cas actif la conservation de l'énergie. On a un amplificateur, donc les signaux qui repartent ont une énergie plus grande que les signaux qui arrivent. Oui.
Est-ce que tu poses un exemple de circuit qui ne conserve pas l'information ?
Oui. Alors ça c'est une très bonne question. Il y a par exemple donc. Si on prenait ce circuit, mais qu'on ne le pompe pas de manière... ici, on a une façon très particulière de pomper le circuit qui va conduire, on va le voir, à l'amplification de certaines quadratures du signal. Si, en fait, ici, on modulait la fréquence du circuit de manière aléatoire, en fait, on pourrait être dans une situation où, en fait, on ne conserverait pas l'information. Donc, un circuit peut conserver l'énergie et l'information, conserver l'énergie mais pas l'information, et puis conserver l'information mais pas l'énergie. Donc, il y a un peu toutes les combinaisons possibles. Je vous rappelle que dans ce cas ici, le cas passif, donc il est commode, ce n'est pas absolument nécessaire, on peut s'en passer, mais ça simplifie beaucoup les calculs, donc je l'indique ici. Donc quand le paramètre de couplage gamma est faible, c'est-à-dire que gamma sur oméga 0 est plus petit que 1, on peut simplifier les calculs et considérer dans cette matrice de diffusion, donc le coefficient de réflexion ici en particulier, on peut considérer qu'un seul pôle à la fois, donc il y a un pôle à fréquence positive et un pôle à fréquence négative. En fait, donc cette expression quadratique est un peu complexe, on peut la simplifier et ne traiter qu'un seul pôle à la fois, ce qui simplifie beaucoup les expressions, mais qui n'est pas essentiel. Mais je voulais vous prévenir, je vous présente les expressions que je vous présenterai sont calculées dans cette approximation très commode, mais qui n'est pas strictement essentielle. On peut tant que le facteur de qualité est de l'ordre est supérieur à 1, cette approximation est tout à fait valable. Donc, dans le cas passif, je vous rappelle que le coefficient de réflexion est un nombre complexe de modules unités et c'est un paramètre important du circuit résonant, et cet angle ici, l'angle de finalement le déphasage des ondes lors de la traversée du circuit oscillant. Et ce déphasage vaut 0 à résonance. Lorsqu'on est à résonance, ce déphasage vaut 0. Et vaut pi, lorsqu'on est loin de la résonance. Donc voilà la correspondance entre l'angle ici du déphasage et l'écart à la résonance. Vous voyez que l'écart à la résonance divisé par gamma et la tangente de cet angle de déphasage. Alors, ce qu'on a vu aussi, c'est que la dernière fois, c'est qu'il y a un type de signal particulier qui est le signal à résonance qui, en fait, croît avec le temps de manière exponentielle avec cette constante de temps gamma. Et ce signal est en quelque sorte optimalement traité par ce circuit résonant, puisqu'il se réfléchit en un signal identique, mais inversé par renversement du sens du temps. Et l'ensemble du signal entrant et du signal sortant réalise une forme de signal qui est tout simplement la transformée de Fourier, enfin l'enveloppe de ce signal, et la transformée de Fourier de la Lorentzienne qui décrit la résonance du circuit. Alors, on peut voir ce circuit de la façon simplifiée suivante. Essentiellement, les signaux qui ne sont pas à résonance sont réfléchis et inversés, ils ne sont pas retardés. Les signaux qui arrivent et qui sont juste à résonance, en fait, ce train d'onde ici subit un décalage temporel et cette espèce de retournement. Donc, en quelque sorte, on peut voir le traitement, ce circuit LC comme ou bien ne faisant rien du tout aux modes qui ne sont pas résonnants, et les modes résonnants, eux, sont simplement retardé en temps. Nous allons voir que dans le cas de l'amplification, eh bien, le signal à résonance qui sera transmis, lui, sera amplifié. Les signaux qui seront hors résonance ne seront pas affectés. Alors, ce système, ce circuit LC dont on fait varier l'inductance au cours du temps est un analogue mécanique. C'est lorsque vous êtes sur la balançoire et que vous cherchez à augmenter l'amplitude, donc vous montez et vous descendez là, le long de la corde. Et en fait, vous connaissez tous ce principe. En fait, l'idée, c'est que vous travaillez contre la force centrifuge. Donc, lorsque vous descendez avec la balançoire, vous montez, c'est-à-dire que vous luttez contre la force centrifuge, et donc vous le faites deux fois par période. En passant dans ce sens, puis dans l'autre. Donc, la recette pour le pompage maximalement efficace, c'est de faire varier l'inductance deux fois par période. C'est ce qui explique le 2 ici. Alors, la dernière fois, on a vu la traduction dans le langage des circuits Josephson, c'est le squid dans lequel le flux est modulé de façon sinusoïdale. Donc, en faisant varier le flux dans la boucle du squid, on fait varier l'inductance du squid. Voilà le système. Donc, ce courant de biais ici, le courant envoyé dans la bobine couplée au squid. Alors, c'est l'exemple que j'ai donné la dernière fois. Il y a un exemple, en fait, encore plus simple à réaliser pratiquement, mais qui est plus complexe à comprendre. En fait, on peut arriver par ce port ici, cette ligne de transmission, et introduire le signal de pompe, mais cette fois-ci à la fréquence oméga 0. Ce pompage est indirect et il procède de la fonction suivante. On excite ce circuit par cette force déterministe et en fait, la jonction étant non linéaire, puisqu'elle a ce mélange, elle réalise ce mélange à quatre ondes, avec ce signal à fréquence oméga 0, la partie non linéaire de la jonction crée un signal à 2 oméga 0 et finalement on se ramène au cas précédent. Le problème, comme on va le voir, c'est que finalement le signal que l'on cherche à amplifier va être à une fréquence très proche du signal de pompe et finalement on est dans la situation où on cherche à détecter les étoiles finalement près du soleil. C'est pas une situation très commode. Mais enfin, sur le plan pratique, c'est un circuit qui a un minimum d'éléments. Alors, ce qu'on a vu la dernière fois aussi, c'est que ce pompage des circuits dispersifs réalise dans l'espace des fréquences des translations. On prend les différents modes et on les copie à des fréquences différentes et la translation en fréquence en fait s'effectue comme valeur la fréquence de pompe. Alors donc si on part d'une fréquence d'un signal ici, on va créer ce qu'on appelle la fréquence image qui est telle que la somme de la fréquence du signal et de la fréquence image est à la fréquence de pompe. Là, on a un exemple assez amusant où le mot français est en fait beaucoup plus parlant que le mot anglais. Idler et image commencent tous les deux par I, mais le mot image est beaucoup plus approprié. On peut voir cette fréquence, effectivement, comme la réflexion de cette fréquence du signal par rapport à la fréquence nulle. Et le caractère amplificateur du circuit est justement obtenu par cette traversée de la fréquence nulle. Si on réalise une autre condition de pompage, si on a la différence entre cette fréquence du signal et la fréquence image qui est donnée par la fréquence de pompe, eh bien, on n'a pas d'amplification, on a simplement du mélange, et il n'y aura pas de gain, il n'y aura pas de gain en nombre de photons. On ne va pas pouvoir démultiplier le nombre de photons. Le nombre de photons sera conservé si on ne traverse pas cet axe de fréquence nulle. Donc, dans la suite, je ne vais pas traiter cette question ici, c'est une question très intéressante, mais on ne peut pas tout faire, donc je vais me concentrer dans la suite dans le cas amplificateur où la fréquence de pompe est la somme de la fréquence du signal et de la fréquence image. Alors, le but de cette leçon, on va essentiellement voir deux questions. La première, c'est finalement comment on calcule le gain et comment il est lié à la bande passante du circuit. Il y a une relation à intensité de pompe donnée. Le gain va déterminer la bande passante et vice-versa. Et puis, alors ça, c'est un principe qu'on a déjà indiqué et qu'on va développer cette fois-ci de façon maximum. C'est que donc, dans ces circuits finalement linéaires, linéaires par rapport au signal, ils ne sont pas linéaires par rapport à la pompe, mais la pompe, c'est un signal qui fournit l'énergie, on peut en quelque sorte traiter la matrice de diffusion du circuit par un calcul complètement classique. On utilise que la première quantification et le bruit quantique va être traité simplement en considérant que ce dispositif linéaire se comporte vis-à-vis du bruit exactement comme vis-à-vis du signal. C'est la propriété des systèmes linéaires. Ils traitent le bruit y compris le bruit quantique sur exactement le même plan que le signal. Donc c'est très économique comme analyse. Une fois qu'on a finalement le gain du circuit, eh bien on a immédiatement son bruit. On va voir comment ça fonctionne ici dans le cas de ces amplificateurs minimes. Et puis donc, dans la dernière partie de cette leçon, on discutera des considérations pratiques d'implémentation. Voilà, alors donc la grande idée, l'aboutissement un petit peu de toutes ces leçons et l'idée principale de celle-ci, c'est que finalement pour faire un amplificateur qui rajoute un minimum de bruit, eh bien il faut qu'il mélange les signaux en combinant un minimum de modes possibles. Donc c'est le caractère combinatoire doit être le plus minimum possible, c'est-à-dire qu'on doit... On va être forcé pour amplifier de combiner des modes, mais moins on combine de modes, plus on sera efficace. Alors, pour voir ça, il faut introduire un peu ce qu'on appelle le vecteur des signaux, qui est un vecteur qui s'obtient en prenant toutes les composantes à toutes les fréquences et tous les ports. Donc, et on répète donc pour chaque fréquence et chaque port, on répète, on prend à la fois la composante à fréquence positive et la composante à fréquence négative. Nous avons vu que dans le cas actif, on mélange a priori les fréquences positives et les fréquences négatives, donc il faut considérer l'ensemble. Donc si on a n modes, on aura ce vecteur, il a une dimension 2n. Donc la matrice de diffusion généralisée connecte le vecteur d'entrée au vecteur de sortie. Alors ici, donc une remarque très importante, c'est des considérations tout à fait classiques, mais l'amplitude du signal est défini par ces petits a, les grands a, nous avons vu, c'est simplement la racine de la puissance du signal, mais dans ce qui va suivre, il est commode d'utiliser cette normalisation, c'est que je divise cette racine de la puissance ici par finalement l'énergie d'un la racine carrée de l'énergie d'un photon de point zéro. Et je dis que donc le traitement est classique. Pourtant, j'utilise une normalisation dans laquelle apparaît h bar. Le h bar ici est absolument, c'est juste pour donner des amplitudes qui s'expriment en racine du nombre de photons. Mais en fait, on peut oublier tout ça. Le h bar ici n'intervient que comme un coefficient sans aucune importance. Ce qui est important, c'est le fait de diviser par la fréquence. C'est ça qui va assurer la propriété de symplecticité très intéressante de la matrice S. C'est-à-dire que lorsqu'on va discuter comment le circuit transforme les amplitudes, lorsqu'on va définir cet espace de phase de l'amplitude des signaux, il est commode d'utiliser cette normalisation parce qu'elle met les signaux à différentes fréquences sur le même plan. On n'a pas besoin d'effectuer cette normalisation lorsque le signal ne translate pas, le circuit ne translate pas les fréquences, mais lorsqu'il le translate, là, pour comparer des signaux à différentes fréquences, il est commode d'utiliser cette normalisation. Alors, donc, la matrice J, la voici, donc c'est une matrice qui comprend 1 et moins 1 sur ses éléments hors diagonaux. Et donc, si on veut écrire les crochets de poisson correspondant à deux composantes de signal, eh bien, il va falloir utiliser cette matrice J. Cette matrice J est centrale à la confection des crochets de poisson qui sont une notion tout à fait classique, qui vont traduire le caractère ondulatoire, mais en première quantification du circuit. Et dire que finalement le circuit obéit à une mécanique conservative au sens hamiltonien, eh bien c'est dire que cette matrice de diffusion laisse cette matrice J invariante. Et donc, finalement, cette conservation des crochets de poisson, c'est finalement la conservation du nombre et du type de degré de liberté du système. Donc, avant le circuit, on a un ensemble de signaux qui obéissent à une certaine dynamique. Cette dynamique, tous ces degrés de liberté sont conservés par le circuit. C'est ce que traduit cette relation. Alors, pour bien fixer les idées, la symplecticité ne doit pas être confondue avec l'orthogonalité. Donc, la conservation de l'énergie, ça se traduit par l'orthogonalité de la matrice S. Donc, l'orthogonalité pour une transformation qui à deux dimensions, ça correspond à la conservation des longueurs et des angles. Mais par exemple, ici, la surface peut être inversée. On a pu changer l'orientation de la surface. La symplecticité, c'est complémentaire, en quelque sorte. C'est une transformation qui peut ne pas conserver les longueurs. Donc, dans ce type d'idée, les longueurs, c'est plutôt analogue à l'énergie, hein. Mais cette transformation, elle conserve les surfaces. Vous savez, vous pouvez dans la cartographie de la Terre, par exemple, avoir des représentations qui conservent les angles et les longueurs pour indiquer, par exemple, la longueur des trajets en avion. Mais sur le plan géopolitique, pour respecter l'importance relative des différents États, vous préférez conserver la surface. Donc, par exemple, la projection de Mercator ne conserve pas les longueurs et les angles, mais conserve la surface. Et ça conserve même l'orientation des surfaces. Donc, en termes plus mathématiques, les transformations orthogonales conservent le produit scalaire et les transformations symplectiques conservent le produit extérieur, donc le produit vectoriel dans les cas particuliers. Voilà, donc c'est cette conservation de l'information qui est la symplecticité, qui est donc conservation du volume dans l'espace de phase, est de nature très différente de la conservation de l'énergie. Alors, c'est très important de comprendre, je le répète encore une fois, parce que en général, dans pas mal d'articles, la confusion est un peu, est quand même assez apparente. Souvent, cette propriété symplectique est exprimée comme la conservation des commutateurs. En fait, effectivement, si vous avez un opérateur, vous pouvez le développer sur la base de tous les opérateurs A et A croix du système. Et la conservation des commutateurs pour le circuit s'exprime exactement de la même façon. Mais il ne faudrait pas croire finalement que cette propriété résulte du caractère quantique des signaux. Ça n'a rien à voir, c'est une propriété, essentiellement ondulatoire au sens classique. Voilà, donc maintenant j'arrive à cette notion absolument cruciale. Donc on a cette contrainte de symplecticité pour ce circuit, pour ces circuits dispersifs. Donc, ils doivent amplifier. Donc, le jeu, ça va être de voir quelle est la matrice symplectique la plus petite possible qui effectue finalement la fonction dans laquelle on est intéressé. Parce que plus finalement on va rajouter de modes, plus on va mélanger de modes, plus on va laisser de canaux ouverts pour le bruit sans aucun bénéfice. Une fonction donnée pour être maximalement efficace, doit respecter ce critère de symplecticité, mais comprendre finalement, être effectuée avec un minimum de modes. Donc, pour l'amplification, là, aujourd'hui, donc, on traite cette fonction élémentaire qui est l'amplification, nous allons voir qu'il y a en fait. Il y a en fait deux cas possibles lorsqu'on cherche à réaliser ce critère. Alors, le cas le plus simple, le minimum, vraiment minimorum, c'est d'avoir un seul mode et de mélanger. Donc, un seul mode, ça veut dire que le circuit a une seule fréquence de résonance, ici, que j'ai représenté la largeur ici, la fonction de transfert du circuit. Donc, il y a une seule fréquence de résonance et la fréquence de pompe, si on doit mélanger des modes, eh bien, on peut mélanger le mode, le mode et son mode conjugué. Donc, c'est ce qui impose ce choix de la fréquence pompe donnée par deux fois la fréquence de résonance. C'est-à-dire que la fréquence, si vous voulez, si on se décale un petit peu par rapport à la résonance, si la fréquence du signal est légèrement décalée par rapport à cette fréquence de résonance du circuit, la fréquence image se retrouvera de l'autre côté de la résonance. Évidemment, si le signal est juste à résonance, eh bien, la fréquence image et le signal sont confondus. Et c'est pour ça que, justement, ce cas s'appelle le cas dégénéré dans le pompage. Donc, il y a un seul mode dans ce système. Nous allons voir qu'il y a un inconvénient à travailler qu'avec un seul mode. Donc, le cas juste un peu plus compliqué, c'est deux modes. Donc là, cette fois-ci, on va avoir un circuit avec deux résonances, deux modes résonnants. Donc là, noté oméga 1 et oméga 2. Et la fréquence de pompe fait passer d'un mode à l'autre et vice-versa. Dans tous ces schémas, je me limite finalement aux fréquences qui sont proches de zéro. Il y a bien sûr d'autres copies aux fréquences supérieures, mais si ici vous voyez que si on n'a que deux résonances, la contribution des fréquences plus élevées peut être complètement négligée. Voilà. Donc, voilà un petit peu là j'ai un peu donné les acteurs de cette pièce. Maintenant, voyons comment, en fait, on décrit un amplificateur radiofréquence. Alors, il y a essentiellement deux paramètres très importants. C'est le gain. Donc, le gain, il est défini comme le rapport entre la puissance de sortie et la puissance d'entrée. Ça, manifestement, si on n'a pas de gain, on n'a pas vraiment d'amplification. Non, ce n'est pas intéressant. En fait, en pratique, il faut un gain d'environ un facteur 1000 si on veut battre le bruit, si on veut battre commodément le bruit de l'amplificateur suivant, il faut que le gain soit environ de 1000. Les autres caractéristiques très importantes de l'amplificateur, c'est le bruit. Alors, le bruit, il y a deux types de bruit. Il y a le bruit en retour, qui est le bruit qui est émis par l'amplificateur dans le circuit d'entrée. Et il y a le bruit ajouté au signal. Un amplificateur ajoute toujours du bruit au signal, il dégrade toujours un peu l'information, et cette propriété est caractérisée ici de manière idéale par une résistance qui est portée à une certaine température, et qui cette température ici va définir par le bruit de Johnson le bruit ajouté au signal. Donc, une autre caractéristique très importante de l'amplificateur, c'est la bande passante. Si on a zéro bande passante, l'amplificateur n'est pas intéressant non plus. La quantité d'information finalement traitée par l'amplificateur est proportionnelle à la bande passante. Donc, c'est important d'amplifier avec une bande passante la plus large possible. Alors, donc, dans ce dessin précédent, il y avait dans cet ampli une entrée et une sortie. En fait, on peut se ramener à un système plus simple, un amplificateur dit à un port. C'est un amplificateur qui fonctionne en réflexion, comme par exemple le circuit LC pompé. Et si on dispose d'un tel amplificateur minimum, on peut réaliser un amplificateur à deux ports en utilisant ces circulateurs. Donc, ce deuxième circulateur permet de transformer cet amplificateur à un port en amplificateur à deux ports. Et en fait, dans ce cas-là, le bruit en retour, le bruit émis par cet amplificateur, devient le bruit ajouté par l'amplification. Donc, c'est un peu... dans ce qui va suivre, on va se concentrer sur un amplificateur à un port, et on voyait que c'est en quelque sorte, on traite comme ça un peu le cas général, bien que pour des raisons pratiques, il soit pas toujours désirable d'avoir à effectivement utiliser ce deuxième circulateur. Mais ça, je vais pas rentrer trop dans ces considérations. Alors, il y a deux. Une fois qu'on se limite aux amplificateurs linéaires, donc c'est ceux qui traitent des petits signaux, et donc lorsque vous traitez des petits signaux, vous pouvez toujours considérer que vous êtes linéaire. Il y a en fait deux grandes classes d'amplification. Il y a l'amplification qui préserve la phase. Donc j'ai représenté le signal d'entrée ici par son vecteur de Fresnel muni de sa petite tâche d'incertitude. Et cet amplificateur qui préserve la phase, c'est simplement l'ampli op ordinaire. Donc il réalise une homothétie. Tout est toutes les coordonnées de l'espace de phase, tous les axes de l'espace de phase sont simplement multipliés par le même coefficient qui est en fait la racine carré du gain en puissance. Donc une simple dilatation. Il y a un autre type d'amplificateur qui est l'amplificateur qui est dit sensible à la phase, est lui qui amplifie une quadrature et qui désamplifie l'autre quadrature. Donc vous voyez que cet amplificateur est d'un type très différent. Il n'amplifie qu'une composante du signal. Et vous voyez immédiatement la différence très importante entre ces deux modes d'amplification. Ici, la tâche d'incertitude doit nécessairement croître, puisqu'on a une dilatation globale. Dans ce cas, puisque finalement on multiplie une quadrature, on amplifie une quadrature et on désamplifie une autre quadrature, la surface de la tâche d'incertitude ici peut rester constante. Alors, nous allons voir qu'en fait, ces deux cas correspondent à ces deux cas minimum dont j'ai parlé. Donc, l'amplificateur paramétrique non dégénéré, ça va être un amplificateur qui préserve la phase. On a deux modes, on traite deux modes différents à la fois, mais le bénéfice, c'est qu'on est capable de préserver la phase, on est donc capable de réaliser un ampli-op, mais le prix à payer, c'est qu'on va nécessairement rajouter du bruit. Par contre, l'amplificateur paramétrique dégénéré, où on ne manipule qu'un seul mode à la fois, où on réalise cette translation entre une partie du mode et la partie conjuguée, elle peut être complètement sans bruit. Mais le prix à payer, c'est qu'on amplifie qu'une seule quadrature. Donc il y a des avantages et des inconvénients à ces deux situations. Mais dans ces deux cas, on a réalisé finalement la fonction d'amplification avec un minimum de mode. Oui.
Dans les deux cas, le rapport signal sur bruit entre guillemets est le même finalement.
Alors. Alors, ça dépend ce qu'on cherche à réaliser. Si on n'a aucune information sur le signal entrant, ce cas-là, il n'est pas très favorable, puisque finalement, disons, une fois sur deux, on va amplifier, une fois sur deux, on va désamplifier. Alors, ça dépend. Si on traite statistiquement, ça peut être quand même très intéressant. Une fois sur deux, on n'aura rien fait, on aura en quelque sorte détruit le signal d'entrée, mais une fois sur deux, on aura fait quelque chose. Si on veut, par exemple, savoir si on a l'état fondamental ou si on a un état légèrement excité, cette stratégie peut être tout à fait valable. Par exemple, dans la détection des ondes gravitationnelles, ce cas sensible à la phase semble être ce qui est le plus avantageux. D'une manière générale, si on aime penser en termes, disons, de traitement du signal habituel et qu'on n'a pas d'informations du tout sur le signal d'entrée, ce mode-là est beaucoup plus pratique. Ça réalise vraiment l'amplification telle qu'on la conçoit d'habitude. En quelque sorte, ce type d'amplificateur, il est très utile si on veut, par exemple, mesurer parfaitement une composante du signal. Donc, dans le mélange homodyne dont j'ai parlé, lorsqu'on est déterminé à ne mesurer qu'une composante du signal, ce type d'amplificateur est en fait excellent, puisqu'il ne rajoute pas de bruit. Mais on s'est spécialisé à l'avance dans une certaine observable. Donc, par exemple, c'est le cas correspondant. Si on a un oscillateur et qu'on décide de mesurer X, et pas P à la fois, ce cas est le plus intéressant. Donc, quel est l'état de l'art actuellement? Donc, si on regarde les différents amplificateurs. Alors, l'amplificateur vraiment commercial actuellement, c'est cet amplificateur à transistor de haute mobilité. Il a un gain très respectable. Il a finalement du bruit en retour faible, mais il est à 40 ou 50 fois au-dessus de la limite quantique. Donc, quelle est cette limite quantique? Eh bien, donc on peut démontrer, c'est ce qu'on appelle le théorème de Caves, que pour un amplificateur qui préserve la phase, la température de bruit correspondant au bruit rajouté par l'amplificateur correspond en termes d'énergie à un demi-photon à la fréquence du signal. C'est ce qu'on appelle la limite standard. Par contre, pour un amplificateur sensible à la phase, la mécanique quantique n'impose aucune limite. On peut, comme je l'ai indiqué, avoir une opération sans bruit. Donc, ce transistor, ces amplis à transistor de haute mobilité réalisent des amplis qui préservent la phase, mais rajoutent environ 50 fois le minimum de bruit imposé par la mécanique quantique. Alors, 50 fois, ça, c'est en fait assez énorme, puisque le temps d'attente pour obtenir un certain rapport signal sur bruit dans l'amplification d'un signal, le temps qu'il faut attendre pour obtenir ce rapport signal sur bruit croît comme le carré de cette température de bruit. Donc, c'est en fait, il y a une grande motivation finalement pour essayer de réaliser des amplis qui se rapprochent le plus possible de la limite quantique. Alors là, il y a deux types de circuits, le SQUID et le transistor 7, qui en fait, normalement devraient se rapprocher très près de la limite quantique, mais qui ont certains problèmes. Donc le transistor 7, le transistor à un électron, lui, en fait, a un gain qui est trop insuffisant pour être vraiment intéressant. Et le SQUID, lui, dans sa version actuelle, rajoute beaucoup de bruit à l'entrée en dehors de sa bande passante. Donc, ce sont des dispositifs qui sont intéressants, mais qui ne sont pas optimaux. Alors, le dispositif vraiment optimal qui fonctionne avec des fermions, donc, que Christian connaît bien, le contact ponctuel quantique, lui, on comprend très bien qu'il peut atteindre exactement la limite quantique, mais avec les procédés de fabrication dont on dispose actuellement, le gain est essentiellement 1. Donc, il est parfait sur le plan du bruit, mais il ne peut pas en pratique être utilisé. Il peut être utilisé comme transducteur, mais pas comme un véritable ampli. Voilà. Donc, essayons de voir un peu plus en détail cette question du rapport entre le gain et la bande passante. Parce que finalement, on cherche à obtenir un amplificateur avec le plus grand gain possible. Et il est important de comprendre comment le gain et la bande passante interagissent. Alors, on peut voir cette question dans les deux cas minimaux dont j'ai parlé. On reprend notre circuit LC dans lequel on fait varier l'inductance. Et là, c'est très facile d'écrire les équations du circuit. On écrit ici l'équation obéie par le flux, en ajoutant donc deux termes de source, les signaux qui arrivent le long de la ligne de transmission, et puis le pompage. Il y a deux approximations très simples à faire. Donc, on dit simplement qu'à toutes les fréquences, les deux côtés de l'équation doivent être égales. Et on fait aussi cette approximation d'onde tournante. Et on arrive finalement à cette matrice de diffusion du circuit. Alors, donc là, les calculs sont faits pour une fréquence quelconque, une fréquence qui peut être décalée par rapport à la fréquence de résonance. Donc, ce paramètre var θ, là, c'est le décalage de l'écart à la résonance. Et alors, on voit ce phénomène très intéressant. On voit que cette matrice est particulièrement simple et présente un certain nombre de symétries. Alors, cette symétrie, en fait, correspond à cette conservation de l'information. On a finalement le coefficient de réflexion et le coefficient qui couple finalement le mode, la fréquence du signal et la fréquence image se comporte un petit peu comme un cosinus et un sinus hyperbolique. Au lieu de la rotation de tout à l'heure, la rotation qui préservait la longueur du signal, ici on a une rotation hyperbolique. Donc cette rotation hyperbolique, c'est ce qui permet justement ce gain supérieur à 1. Et donc on peut prendre ces expressions et voir comment le gain, qui est le gain ici, ça va être justement le carré, le modulo carré du coefficient de réflexion varie varie en fonction de l'écart à résonance et pour différentes valeurs de ce paramètre du pompage. Et on voit que finalement, au fur et à mesure que l'on cherche à obtenir du gain, eh bien, la bande passante se rétrécit. En fait, on a cette relation ici entre gain et bande passante. Alors, il y a une situation où le produit gain bande passante est constant, mais ce n'est pas celle-ci. Ici, les hypothèses qui ont été faites, c'est que le pompage ici est rigide, c'est-à-dire que ce qui réalise cette modulation de l'inductance, c'est un grand signal classique qui est réfléchi et dont une faible partie est utilisée pour l'amplification. Donc, si vous voulez, on bénéficie d'un réservoir d'énergie dans ce circuit et donc le produit gain bande passante n'a pas à être constant. En quelque sorte, au fur et à mesure que on augmente la fréquence de pompe, on utilise plus efficacement l'énergie de la pompe et c'est pour ça que finalement on n'a que cette variation en racine de la bande passante. Alors ce que je voudrais dire quand même, c'est que le paramètre d'échelle, donc plus on part d'un circuit qui a une grande bande passante au départ, plus on aura une grande bande passante à l'arrivée, puisque finalement cette fonction est une fonction qui indique ce compromis entre gain et bande passante, en fait, a comme paramètre d'échelle gamma. Donc si le système autorise par ailleurs cette grande bande passante, c'est-à-dire ce grand taux d'amortissement du circuit, eh bien, on pourra avoir à la fois du gain et de la bande passante. Alors maintenant j'en arrive au système à deux modes où on va mélanger deux modes indépendants. Donc là maintenant on a deux résonateurs, donc deux circuits LC, et là ce qu'on va moduler, donc dans cette version minimum de l'amplification, ce qu'on va moduler c'est le couplage. Donc on peut imaginer qu'on a un transformateur, ici on a deux selfs couplés, et ce qu'on va faire varier c'est le couplage, c'est-à-dire l'inductance mutuelle, si vous voulez. Et c'est ça qui va réaliser l'amplification paramétrique non dégénérée. Et là, encore une fois, là, maintenant, je rappelle que donc, les amplitudes des signaux sont mesurées avec cette normalisation. Là, c'est très important, je le rappelle, puisqu'on a deux signaux à deux fréquences différentes. Et donc il faut avoir une mesure de l'amplitude normalisée correcte. Alors, l'analogue mécanique de ce système, ici, c'est deux oscillateurs couplés, dont le couplage de ces deux oscillateurs, c'est le fait que la corde, ici, ne soit pas parfaitement tendue. Les deux pendules, ici, peuvent se coupler par ce bras de levier, ici. Et on pompe le système avec un troisième oscillateur qui finalement module la tension de la corde et donc le couplage. Voilà un peu l'analogue mécanique de ce circuit. Alors là, on peut, Exactement, en utilisant la même méthode que celle que j'ai indiquée précédemment, on peut calculer la matrice de diffusion et on a des expressions finalement extrêmement semblables à celles qu'on avait précédemment, mais ces expressions autorisent le fait que la bande passante de chacun des deux circuits peut être différente. On peut partir de deux bandes passantes différentes. En fait, on va voir que la forme de ces expressions montre que ça n'est pas du tout avantageux. On a intérêt à avoir la même bande passante pour les deux circuits parce que ces expressions mélangent les deux modes et finalement, on va être toujours bridé par le mode qui a la plus petite bande passante. C'est lui qui va imposer la bande passante finale. Alors, ce qui est très intéressant maintenant, c'est que contrairement au cas précédent, c'est que si on regarde cette sous-matrice ici, correspondant au signal, eh bien, on a les mêmes coefficients, on a le même module ici pour ces deux coefficients de réflexion, c'est-à-dire que cet amplificateur maintenant n'est pas sensible à la phase, il va préserver la phase. Cette propriété, on ne l'avait pas dans le cas précédent. Et on a encore une fois à la fois l'amplification et on a ces deux conditions ici qui indiquent qu'on a une matrice symplectique. Donc, on a vraiment un système ici qui mélange les modes de façon minimum et qui nous fournit une amplification avec le minimum de bruit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce type d'amplification ? Alors, ce que j'ai représenté ici, c'est les vecteurs de Fresnel correspondant aux deux signaux, le signal et la fréquence image. Donc, j'ai supposé là que, normalement, cet amplificateur, on l'utilise en prenant le signal image à zéro. En fait, on est forcé d'avoir cet autre mode, mais normalement, lorsqu'on veut utiliser cet amplificateur, on n'envoie rien sur le mode image. Mais supposons qu'on ait envoyé un signal, eh bien, on peut voir ici la façon dont ce circuit fonctionne de la façon suivante. En sortie, ce qui est amplifié, c'est la somme de ces deux signaux et la différence, elle, est rétrécie. Donc, contrairement au cas de l'amplificateur dégénéré où on n'a qu'un seul signal dont les deux quadratures sont amplifiées de façon différente, ici, si je prenais le signal image à zéro, le signal lui-même sera amplifié normalement, mais si j'amène un signal image non nul, eh bien, c'est la somme des deux signaux qui sont amplifiés et c'est la différence des deux signaux qui sera désamplifiée. Vous voyez qu'en fait, on a, comme dans le cas précédent, une conservation du volume dans l'espace des phases, mais ce volume maintenant est à quatre dimensions au lieu d'être à deux dimensions. Avant, dans le cas de l'amplificateur dégénéré, on a conservation. Si on reprend ce cas ici, dans le cas de l'amplificateur dégénéré, c'est simplement la conservation de la surface dans un espace à deux dimensions. Dans le cas non dégénéré, est conservé, c'est le volume dans un espace à quatre dimensions. Donc, c'est un peu plus. C'est en utilisant un espace plus grand qu'on a réussi à la fois conserver le caractère. On a réussi à conserver le caractère amplificateur dans les deux quadratures d'un seul mode. Alors, maintenant. Oui? Alors, attention, dans ce cas non dégénéré, le signal et l'image ici ne sont pas à la même fréquence. Donc on ne peut pas utiliser une lame séparatrice ordinaire. En fait, ce système réalise une lame séparatrice en fréquence. Donc en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est faire précéder ce circuit d'un circuit finalement identique. On peut réaliser une expérience, j'arrive à ce point-là, on peut réaliser une expérience Mach-Zehnder, une espèce d'interférence, on va le voir, tout à fait spéciale. Alors, maintenant, supposons qu'on n'envoie pas de signal du tout, à la fois sur le port signal et sur le port image. Cet amplificateur, à l'entrée, on envoie finalement les signaux dans leur état fondamental. Donc, absolument aucune entropie. Donc, c'est le vide, il n'y a pas de photons. Mais il amplifie le bruit quantique. Et donc, à la sortie, on trouve des grandes tâches d'incertitude. Et plus le gain est grand, plus la tâche sera importante. Alors, ce qui est très spectaculaire, c'est un phénomène de traitement du bruit ici très spectaculaire parce que finalement, la matrice de diffusion du système est symplectique, donc elle conserve l'information, ou si vous voulez, elle conserve l'entropie, c'est la même chose. Donc, si finalement on a un état fondamental des signaux à l'entrée, on doit avoir ou du moins on a un état pur à l'entrée, on doit avoir un état pur à la sortie. Alors, c'est très intriguant parce que finalement, ici, manifestement, on a la tâche étant augmentée, l'énergie moyenne est augmentée. Et en fait, on a réalisé ce qui s'appelle ici du squeezing à deux modes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on fait une mesure très précise, finalement, d'une quadrature du signal ou d'une autre. Disons qu'on obtient un point ici. Cette mesure va nous donner un point sur cette tâche. Eh bien, la même mesure sur le signal image va nous donner un point complètement symétrique. C'est-à-dire que là, on est dans une situation exactement analogue à celle de la mesure d'un état singulier de spin. Vous savez que si on mesure, si on a intriqué deux spins, qu'on a mis ces deux spins dans l'état singulier, si on sépare les deux spins et qu'on les mesure, disons de manière non locale, à une grande distance, eh bien, on a une corrélation parfaite entre la mesure du moment angulaire d'un spin et la mesure du moment angulaire de l'autre spin. Elles sont toujours anticorrélées, quelle que soit l'orientation. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici. On va avoir une corrélation parfaite, et en fait, d'autant plus parfaite que le gain est grand. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que ces tâches ici vont augmenter, leur diamètre va augmenter, eh bien, cette corrélation va être de plus en plus étroite. En fait, la corrélation est essentiellement dans un rapport est plus étroite que la largeur de l'état fondamental, ici par un rapport qui est justement donné par l'inverse du gain. Le gain intervient aussi de façon intéressante lorsque on mesure finalement la distribution du nombre de photons dans cet état. Au lieu de mesurer les différentes quadratures du signal, on mesure le nombre de photons, eh bien, on va trouver un état thermique. Cet état qui correspond au vide amplifié, c'est un état thermique. Il est caractérisé par une certaine température. Et dans la limite des grands gains, cette température, en fait, par rapport à la fréquence du signal, est donnée par le gain lui-même. Donc, plus le gain est grand, plus la température sera grande. Ce qui se passe est tout à fait spectaculaire ici. Si vous imaginez que vous envoyez ce signal et ce signal image dans deux parties séparées de l'univers. Donc, chaque partie de l'univers va simplement voir le rayonnement d'un corps noir. Donc, à partir essentiellement d'un état fondamental, sans désordre, vous avez créé deux états du rayonnement qui sont chauds, qui ont du désordre, mais ce désordre est parfaitement corrélé Cette corrélation, si vous voulez, ça, c'est l'équivalent d'une entropie négative qui compense l'entropie de ces états thermiques. De fait, de la sorte, globalement, si vous réunissez ces deux parties d'univers, l'entropie totale est zéro. Mais dans chaque sous-partie, eh bien, vous avez l'impression d'avoir créé de l'entropie. Alors, je vais conclure très rapidement. Je voudrais juste vous indiquer qu'il est possible finalement d'observer cette amplification paramétrique non dégénérée avec des jonctions Josephson, et c'est le travail de Nicolas Berjal à Yale. Et donc l'élément clé pour ce mélange non linéaire, non dégénéré, c'est ce circuit, une espèce de squid, mais à quatre jonctions, qu'on appelle le modulateur Josephson en anneau. C'est un circuit qui est inspiré d'un circuit similaire réalisé avec des diodes Schottky et qui est utilisé dans les mixeurs. Mais là, la grande différence, c'est que les diodes Schottky sont des éléments qui sont dissipatifs. Ici, ce circuit est réalisé avec des éléments purement dispersifs. Il y a, comme il y a quatre jonctions, il y a quatre modes, mais ce dernier mode ici, en fait, n'est pas couplé aux jonctions, donc on peut l'oublier. On peut se concentrer sur ces modes X, Y et Z. Alors X, vous voyez, ça correspond à une oscillation de ces deux nœuds ici, une oscillation antiphase de ces deux nœuds, alors que ces deux nœuds ici sont immobiles. Et Y, c'est la même chose, mais tourné de 90 degrés. Le mode Z, lui, c'est un mode qui est un mode commun, dans lequel le courant ici arrive, par exemple, par le haut et le bas, et repart par l'est et l'ouest. Une façon de voir ce circuit, c'est que c'est une espèce... le mode Z, ici, sert d'interrupteur pour les modes X et Y. C'est un interrupteur qui réalise un couplage entre les modes X et Y, mais un couplage qui est invertible, dont le signe peut changer au cours du temps. Et... l'avantage de ce circuit, c'est que si on regarde l'hamiltonien, si on regarde l'énergie de ce modulateur Josephson, eh bien, il comprend un terme très simple qui mélange les trois modes de façon minimale. Donc simplement, le mélange, c'est une non-linéarité ici absolument la plus simple possible. On a dans l'énergie le produit simplement de l'amplitude de ces trois modes. On va utiliser le mode Z ici pour pomper le circuit, et ce pompage va réaliser finalement ce couplage, ce transformateur dont la mutuelle varie au cours du temps. Il y a d'autres termes, mais ces termes ici ne font que renormaliser les fréquences de résonance. Voilà en pratique comment le circuit est constitué. Donc on a les deux circuits LC ici sont couplés par ce modulateur, et ce modulateur se comporte exactement comme un transformateur d'inductance mutuelle variable. Le pompage ici, le mode Z qu'on va utiliser pour la pompe, est pompé ici par une source de courant qui est connecté à un point milieu ici pour les deux capacités des oscillateurs. En pratique, ça se présente de la façon suivante. On a les deux résonateurs correspondent à des lignes coplanaires au niveau du chip, et comme les deux fréquences sont différentes, vous voyez les longueurs en fait de ces lignes de transmission sont différentes. Les quatre jonctions du modulateur sont représentés ici. Alors, pour juste vous convaincre que les choses ont l'air d'assez bien fonctionner, je vous présente un seul résultat expérimental. Ce qu'on fait dans cette expérience, c'est qu'on prend le signal et le mode image. Dans cette expérience, on ne met rien à l'entrée. On essaye effectivement d'observer dilatation du bruit, cette dilatation corrélée, pour comparer, donc ça c'est la question de Fabien, pour comparer finalement le mode du signal et le mode image, il faut les remettre à la même fréquence. C'est le but, c'est ce qui est obtenu ici par ce mixeur, donc qui est intercalé là avant l'addition des signaux. Et on mesure la puissance de bruit avec un analyseur de spectre. Et cette puissance de bruit ici est portée, elle est codée sous forme de couleur, elle est portée en fonction de la différence de phase ici. Lorsqu'on va, avant l'addition, on va décaler en phase les signaux. Et ici, j'ai représenté la fréquence. Et vous voyez qu'effectivement, il y a un pincement. Ici, on observe finalement, lorsque la phase passe par, de façon périodique, finalement, on mesure une anticorrélation dans le bruit qui sort par ces deux voies de l'ampli. Alors, cette anticorrélation se voit beaucoup mieux sur ce graphe, où en fonction de la fréquence, on porte le bruit. Et vous voyez que pour la corrélation maximum, eh bien, on a deux copies identiques du bruit. Le bruit a l'air... on a deux copies identiques. Mais pour la phase décalée par 180 degrés, on a bien soustraction parfaite. Disons que ces deux signaux réalisent bien deux copies parfaites au bruit près. Alors, ce qui reste, cette expérience n'est pas terminée. Le défi maintenant, c'est de montrer que cette corrélation est plus parfaite que le bruit de point zéro. Là, il faut on est dans cette expérience. Il y a encore du bruit thermique dans cette expérience qui masque cette corrélation parfaite en dessous du bruit quantique. Mais cette expérience est en cours et on pense qu'on doit pouvoir prouver que ces deux signaux réalisent deux copies du même signal avec une corrélation meilleure que le bruit quantique. Alors ça peut vous sembler étrange puisqu'il y a en mécanique quantique un théorème qui dit qu'on ne peut pas copier une fonction d'onde. Il ne s'agit pas de copie d'une fonction d'onde connue à l'avance, il s'agit de réaliser deux copies identiques du même bruit. Le bruit n'est pas connu à l'avance, il est tiré au hasard par le système et l'on ne viole pas le théorème du clonage. Donc, quel est l'intérêt de ce genre de choses? Ça permet d'avoir, dans une expérience d'interférence, deux signaux qui contiennent un très grand nombre de photons, donc une très grande puissance, et qui vont être très sensibles à des différences de marge, par exemple, des différences d'indices, vont être plus identiques que ce que vous auriez obtenu, justement, en utilisant une lame séparatrice. Donc, c'est une façon de faire des interférences à un grand nombre de photons, d'augmenter la sensibilité de l'interféromètre. Alors, en utilisant dans les deux bras de l'interféromètre du bruit, on ne se commet pas finalement sur une valeur particulière du signal, ni en amplitude, ni en phase, et finalement, on arrive à comme ça aller au-delà de ce théorème qui a interdit le clonage. Voilà, donc j'arrive aux conclusions. Je vous prie de me pardonner, j'ai dépassé très largement la durée que je m'étais fixée au départ. La conclusion, c'est que finalement, on peut réaliser cette amplification à la limite quantique. On a un bon candidat ici pour réaliser du mélange à trois ondes, qui est le mélange minimal qui permet d'amplifier avec le minimum de bruit. je voudrais juste finalement vous indiquer maintenant, pour terminer, le programme du cours de l'année prochaine. Donc j'insère un peu une page de publicité là dans la leçon. Donc cette année, en fait, on a examiné ces circuits quantiques sous l'angle, disons, des perturbatifs, c'est-à-dire que toutes les résonances qu'on a considérées étaient étroites. Le circuit restait en quelque sorte faiblement couplé à l'extérieur. On était dans une situation de couplage faible. Et l'année prochaine, justement, on examinera les aspects non perturbatifs de ces circuits, en particulier les conséquences du fait que le potentiel Josephson est périodique. C'est un élément non perturbatif. Et on examinera aussi le cas de l'amortissement non perturbatif avec les jonctions tunnel normal. Enfin, pour finir, je voudrais remercier ces personnes qui m'ont aidé dans la préparation de ces cours et je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.